L'image que vous avez ici en présentation, c'est une gravure du XVIe siècle qui illustre un problème qu'on a eu pendant longtemps, de savoir si l'univers était fini ou infini. Et en particulier ici, c'est le cas de l'univers fini, et la question qu'on se posait, c'est si je suis au bord de l'univers et puis que je tends un bâton, donc on voit le personnage qui a un bâton dans la main, que je tends un bâton, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe pour le bâton, s'il sort de l'univers. Et on veut voir qu'en fait, ce genre de paradoxe n'existe pas. On peut avoir des univers finis sans qu'il y ait ce problème de bâton qui se pose. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu à quoi ressemble l'univers à grande échelle. Donc, au tout début, on était parti de la Terre, la Terre, le Soleil. Après, on avait regardé un peu plus loin, donc le système solaire, l'assemblage de planètes. Donc, les planètes, on avait vu la ceinture de Kuiper, les plus lointaines qu'on connaisse actuellement, on va dire. Pour donner un chiffre en 10 milliards d'années-lumière, si on veut aller au bord extrême du système solaire, l'image dehors est à peu près à 1 année-lumière du Soleil. Après, les structures au-dessus, on est passé à l'étude de la Voie lactée. Donc la Voie lactée, 100 000 années-lumière de diamètre. Et puis maintenant, on regarde encore un peu au-dessus. Donc les galaxies, se regroupent entre elles. De la même façon que les étoiles, très souvent, sont par groupe de 2 ou 3 dans les galaxies, les galaxies elles se regroupent. Donc vous avez deux types de structures, ce qu'on appelle des amas. Donc vous avez quelques dizaines de galaxies, on va dire, sur une table typique de quelques millions d'années-lumière. Il y en a un qui est assez connu pour l'hémisphère nord, qui est situé dans la Vierge. Et puis les amas eux aussi se regroupent ensemble pour former ce qu'on appelle des super amas. Donc là vous en avez un exemple qui s'appelle, c'est le super amas de Chapelet. Donc là encore, on augmente toujours un peu en taille. Au lieu de pour un superamas, au lieu de quelques millions d'années-lumière, on passe à quelques centaines de millions d'années-lumière. Et puis on passe à quelques milliers de galaxies. Alors si on regarde ensuite pour ce qui est des distances, alors je vais en revenir un petit peu là-dessus. On peut déterminer la distance de ces différents amas. Et puis essayer par exemple, de poser la question, est-ce qu'on voit des galaxies ou des amas de galaxies à toutes les distances? Et la réponse est oui, on les voit quasiment à toutes les distances. Il y a une image qui est assez célèbre ici, c'est ce qu'on appelle le Hubble Deep Field, donc le champ profond de Hubble, où le télescope spatial Hubble a visé, alors déjà ça a été pas facile à trouver, parce qu'il a fallu chercher une région dans laquelle il n'y avait quasiment pas d'étoiles. Donc là, en fait, sur l'image, il doit y en avoir... à peine une ou deux, il y en a une là, et puis une deuxième là, et ça doit être à peu près tout. Donc on a cherché une image à un endroit du ciel où il n'y avait pas d'étoiles, quasiment pas d'étoiles, et puis le télescope donc, a fait une énorme pause pendant un temps très très long sur cette région, donc là la pause fait plus de 30 heures en cumulé. Et ce qu'on a observé, c'est tous ces points ici, et donc je vous dis, mis à part ces deux points là en forme de croix, tous les autres points sont des galaxies. Donc vous en avez des milliers et des milliers. Et le champ de l'image est vraiment tout petit. Hein. C'est quelque chose qui fait à peu près un dixième de la taille de la pleine lune, un dixième sur un dixième. Donc c'est vraiment tout petit sur le ciel. Et on a trouvé des milliers et des milliers de galaxies. Et on a pu déterminer leur distance. Détermination de leur distance. Et on en a trouvé à toutes les distances. Alors après, on peut essayer de mettre ça sur une carte en trois dimensions. Alors, ce qu'il y a ici, c'est plutôt une carte en deux dimensions. En fait, on a visé dans deux endroits donc opposés, en gros, pour un même angle au-dessus de l'horizon, et puis on a essayé de regarder où se situaient les galaxies. Et là, ça a été une vraie surprise. Les galaxies ne se répartissent pas du tout de façon aléatoire, comme ça, un point ici, etc. Il y a des structures qui sont nettement visibles. On voit il y a des espèces de bulles comme ça qui sont observables. On a l'impression d'une espèce de mousse. Et puis donc les galaxies qui se répartissent comme ça plutôt le long des parois de ces bulles. Et on a une vraie structuration de la répartition des galaxies. On n'a pas du tout quelque chose qui est au hasard. Alors oui, juste pour nous donner une idée des les tailles jusqu'auxquelles on allait, enfin plutôt des distances, pardon, jusqu'auxquelles on allait. Donc je vous ai dit, la galaxie la plus proche de la Voie lactée, donc c'est enfin, une petite galaxie satellite, enfin, c'est deux petites galaxies satellites, c'est le grand et le petit nuage de Magellan. Si on veut regarder quelque chose qui ressemble à la Voie lactée, donc la plus proche, c'est la galaxie d'Andromède, 2 millions d'années-lumière. Où les nuages de Magellan, c'est le sujet, 250 000 années-lumière. Et là, dans ce sondage avec le télescope spatial, on a pu observer des galaxies jusqu'à plusieurs milliards d'années-lumière. Et on est arrivé aux limites du télescope, c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller plus loin. Alors, quelques mots sur les mesures de distance. Alors, souvenez-vous, la fois dernière, quand on a commencé à vouloir parler de mesures de distance, on avait parlé, quand on avait des distances pas trop lointaines, de la parallaxe, pour commencer. Parallaxe, mais bon, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Pour l'instant, on sait faire jusqu'à quelques centaines, quelques milliers d'années-lumière. Donc ça, c'était, enfin, on va dire, mettons, 1000 années-lumière. C'était le télescope, plutôt le satellite Hipparcos. Le successeur d'Hipparcos, Gaïa, on espère pouvoir aller jusqu'à à peu près la taille de la galaxie, 100 000 années-lumière. Et quand on passe à des galaxies autres que la Voie lactée, là, les méthodes de parallaxe sont plus applicables. Donc, vous trouvez d'autres moyens. Donc, on avait parlé des céphides, donc qui sont une classe particulière d'étoiles pulsantes pour laquelle la période de variation de la luminosité et la luminosité sont liées de façon pas très forte. Donc, en mesurant la période avec laquelle la luminosité de l'étoile varie, on peut connaître la luminosité absolue et puis en comparant avec la luminosité apparente qu'on observe, on peut déterminer la distance. Alors ça, c'est ces céphéides, on peut les utiliser jusqu'à quelques dizaines de millions d'années-lumière. Et quand on en est à plusieurs milliards d'années-lumière, là, c'est absolument plus applicable. Donc il faut avoir recours à d'autres méthodes. Et une des méthodes, c'est là encore d'utiliser des étoiles particulières, qu'on appelle les supernovas de type 1A. Alors, je vais en dire deux mots, donc pour ça il faut revenir un petit peu sur comment se déroule la vie d'une étoile. La vie d'une étoile, ça varie beaucoup avec sa masse, enfin, essentiellement même avec sa masse. Plus la masse est importante et plus l'étoile va avoir une durée de vie brève. Alors ça pourrait être, ça peut paraître surprenant à priori, on pourrait se dire plus il y a de carburant nucléaire, plus l'étoile va durer longtemps. Et en fait non, parce qu'avec l'augmentation de la masse, il y a un emballement des réactions nucléaires. Et cet emballement est bien plus important que l'augmentation de carburant disponible pour l'étoile. Typiquement, si vous prenez une étoile de la masse du Soleil, sa durée de vie, c'est à peu près 10 milliards d'années. Si vous prenez une étoile qui fait 10 masses solaires, ça va être quelques dizaines de millions d'années, à peine. Donc ça veut dire moins de 1%, voire un millième de la durée de vie du Soleil. Donc c'est vraiment très 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 bref. Donc là, les étoiles qui vont nous intéresser, leur masse va être inférieure à 8 masses solaires, mais un peu plus grand que 0,1 masse solaire. Alors pourquoi ce 0,1 masse solaire ici? C'est juste pour être sûr qu'on est dans le régime où on entretient effectivement des réactions nucléaires au centre. En dessous de 0,1 masse solaire, on est un peu limite, on commence à avoir des objets où les réactions nucléaires peuvent s'entretenir, donc on ne peut pas vraiment, plus vraiment parler d'étoiles. Alors, qu'est-ce qui va se passer au début? Au début, dans une étoile, vous avez essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, ce qui va se passer, au cœur de l'étoile, là où la température et la pression sont la plus importante, on va avoir des réactions de fusion nucléaire et, pour commencer, des réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène. Donc, ça va durer un certain temps. Donc, il y a de l'hélium qui est formé au cours de ces réactions nucléaires. Et puis, il va arriver un temps où on va commencer à avoir épuisé l'hydrogène qui était au centre de l'étoile, donc on va plus pouvoir produire suffisamment d'énergie pour contrecarrer les forces de pression qui tendent de gravité qui tendent à faire en sorte que l'étoile s'écrase sur elle-même. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement le cœur de l'étoile va se contracter un petit peu, on va augmenter en température et on va pouvoir faire démarrer un deuxième type de réaction nucléaire, basé cette fois-ci donc sur l'hydrogène mais sur l'hélium. Alors, ce qui va se passer également, c'est que avec la contraction du cœur et l'échauffement, on va avoir une énorme dilatation des couches externes de l'étoile pour former ce qu'on appelle une géante rousse. Et donc ça va être le prochain stade du Soleil dans quelques milliards d'années quand même, on a encore un peu de temps. Et donc une dilatation des couches qui peut être extrêmement importante. Hein. Alors le Soleil, je vous rappelle, c'est à peu près 1,5 million de kilomètres de diamètre actuellement. Et dans l'espace de géante rouge, ça sera plusieurs centaines de millions de kilomètres. Donc la Terre sera dans cette atmosphère stellaire de géante rouge du Soleil. Et puis donc avec ces. Quand on est dans l'étape hélium, il se passe la même chose que dans l'étape hydrogène. Donc on va brûler l'hélium, c'est pas une combustion qu'on a l'habitude sur Terre, c'est une réaction de fusion nucléaire. Donc fusion l'hélium pour produire du carbone et de l'oxygène, et puis à nouveau le carburant va s'épuiser, etc. Et puis on arrive avec un cœur qui est formé de carbone et d'oxygène. Et là, dans les étoiles dont la masse est inférieure à 8 masses solaires, on va s'arrêter là parce qu'on n'arrive pas à avoir une contraction suffisante du cœur pour allumer les réactions nucléaires qui pourraient faire participer le carbone et l'oxygène. Alors on s'arrête là, l'étoile se refroidit lentement et forme ce qu'on appelle une naine blanche, donc c'est en fait une petite étoile très concentrée. Qui a à peu près la taille de la Terre, donc un centième de la taille du Soleil, et avec la même masse que le Soleil. Alors on pourrait se dire, c'est la fin de l'histoire, on s'arrête comme ça avec une naine blanche qui va se refroidir tout doucement. Alors c'est la fin de l'histoire, pas tout à fait, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les étoiles, en fait, le plus souvent, sont par groupe de 2, 3, enfin 4, mais sont assez peu toutes seules. Dans plus de la moitié des cas, les étoiles sont dans des systèmes multiples. Et là, ça va changer pas mal les choses. Alors, juste des petites images pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les différentes choses. Donc là, vous avez les tailles comparées du Soleil et puis de l'étape naine blanche ici. Donc, rayon de la naine blanche, à peu près 1% du rayon du Soleil. Et puis, ce que vous avez à droite ici, c'est ce qui peut se passer dans le cas où on a des étoiles encore plus massives, donc là pour plus de 8 masses solaires, où on peut à nouveau continuer les contractions, et puis à un moment on arrive à une phase explosive de supernova, alors c'est supernova de type 2, et puis le résidu de tout ça, c'est quelque chose d'encore plus concentré que la naine blanche, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons, alors je ne sais pas si vous pouvez bien lire de votre place. Étoile à neutrons, donc diamètre à peu près 10 km. Donc vraiment tout petit, et puis qui concentre là aussi une masse égale à la masse du Soleil. Donc là encore, vous avez, quasiment, on voit la naine blanche, en comparaison la naine blanche qui est ici, mais on voit quasiment pas la courbure de la naine blanche, et puis la toute petite étoile à neutrons. Et si on revient de l'autre côté, donc dans la phase géante rouge ici, vous avez là encore la taille comparée de la géante rouge et puis du Soleil, donc un rapport là encore à peu près 1%. Et ces phases de géante rouge et d'expulsion des couches supérieures de l'atmosphère de l'étoile, vous en avez un exemple qui s'appelle la nébuleuse planétaire Helix, où en fait vous avez une toute petite naine blanche qui est ici au centre, et puis les restes des couches de l'étoile qui ont été expulsées autour. Alors, on en revient à ce qui se passe quand on a deux étoiles qui sont côte à côte. Ce qui va se passer, si les étoiles sont suffisamment proches, c'est qu'on va pouvoir avoir un transfert de matière d'une étoile vers l'autre. Donc, d'une étoile qui n'est pas encore en phase de naine blanche vers la phase vers l'étoile qui est dans la phase de naine blanche. Et là, ça va changer radicalement les choses, parce qu'il y a des études qui ont été faites il y a déjà assez longtemps, donc par quelqu'un qui s'appelle Chandra Sekhar, donc qui a montré que ces naines blanches étaient stables, mais tant qu'elles n'avaient pas une masse trop grande. Et la limite de cette masse, c'est 1,44 masse solaire. Et dès que ces naines blanches dépassent cette limite de 1,44 masse solaire, elles explosent. Donc si on a un transfert de matière ici, d'une étoile vers une naine blanche, ça va se passer bien jusqu'à ce 1,44 masse solaire. Et puis dès qu'on va atteindre cette valeur-là, on va avoir une explosion. Et c'est justement ce qu'on appelle ces explosions, ces supernovas de type 1A. Et le gros avantage de ces supernovas type 1A, c'est que se déclenchent toujours en même seuil, le fameux 1,44 masse solaire. Donc c'est quelque chose de très calibré. Et là encore, si on observe une luminosité apparente de supernova type 1A, on sait quelle est sa luminosité absolue, donc on peut déterminer la distance. Et comme c'est des explosions qui sont extrêmement lumineuses, on va pouvoir comme ça étalonner les distances de façon jusqu'à des distances beaucoup plus grandes qu'avec les CFI. Donc jusqu'à, on en est maintenant à maintenant quelques milliards d'années-lumière pour l'étalonnage des distances avec les supernovas de type 1A. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a pu observer, qu'est-ce qu'on a pu apprendre de l'observation de toutes ces galaxies? Alors, un des premiers à regarder tout ça, ça a été Hubble. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé le télescope spatial Hubble en l'honneur de Edwin Hubble. Donc lui avait regardé les galaxies. Alors une des premières choses déjà qu'il a montré, plutôt qu'il a confirmé, c'est que les galaxies étaient des objets qui ressemblaient à la Voie lactée et qui n'étaient pas du tout dans la Voie lactée. Parce qu'au début du XXe siècle, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident. On ne savait pas trop quel était le statut de la galaxie d'Andromède ou d'autres galaxies. On ne savait pas si c'était des objets qui étaient à l'intérieur de la Voie lactée ou complètement à l'extérieur. Et Hubble a été un de ceux qui ont vraiment confirmé que les galaxies sont des objets semblables à la Voie lactée et complètement en dehors et à des distances extrêmement grandes. Et avec les CFI, il a étudié les distances et il a également étudié la vitesse relative de ces galaxies par rapport à la nôtre. Alors comment on peut mesurer la vitesse relative? Avec l'effet Doppler dont on a parlé la fois dernière, souvenez-vous. Cet effet de Doppler, c'est ce qui vous fait paraître les sons plus graves ou plus aigus, par exemple pour le son quand vous avez une voiture qui s'approche ou qui s'éloigne, et vous avez exactement le même type de phénomène pour la lumière. Donc en mesurant ce décalage dans la lumière émise, on peut avoir la vitesse à laquelle vont les galaxies par rapport à la nôtre. Et ce qu'a montré Hubble, c'est que plus les galaxies étaient lointaines, et plus elles s'éloignaient rapidement de nous. Et pour les galaxies qu'il a étudiées, qui étaient assez proches, par rapport à ce qu'on sait faire maintenant, assez proches de la Voie lactée, il y avait à peu près une relation de proportionnalité entre l'éloignement et puis la vitesse de la galaxie. Alors la vitesse, cette constante de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble. La vitesse qui est retenue actuellement, c'est 75 km par seconde par mégaparsec. Alors, souvenez-vous, le parsec qu'on a dit, c'était relié à la définition de la parallaxe, c'est la distance à laquelle on voit l'orbite de la Terre sous un angle de 1 seconde d'arc. Donc c'est à peu près 3 années-lumière. Donc cette valeur de 75 km par seconde par mégaparsec, ça veut dire que ça va faire à peu près 3 millions d'années-lumière. Donc ça signifie qu'une galaxie qui est à peu près à 3 millions d'années-lumière bouge à 75 km par seconde. Si elle est à 30 millions d'années-lumière, c'est 750 km par seconde, etc. Donc, première chose, qui était là encore une vraie surprise au moment de la découverte, c'est que l'univers a une expansion. Donc, plus on est loin, plus les choses fuient, donc la distance entre les corps augmente. Alors, c'était une surprise, oui et non, parce qu'il y avait eu les premiers travaux d'Einstein en particulier sur quelles pouvaient être les géométries et l'évolution de l'univers. Et donc, Einstein avait trouvé des solutions d'univers en expansion. Mais pour lui, ça ne le satisfaisait pas. Et il a rajouté une constante dans ses équations, donc on appelle la constante cosmologique, on va être amené à en reparler après, pour faire en sorte d'avoir un univers statique. Alors bon, c'est pas tout à fait seulement pour faire en sorte d'avoir un univers statique, parce que cette constante cosmologique, qui est aussi quelque chose qui apparaît naturellement dans les équations de la relativité générale, sous la forme justement la plus générale possible. Donc Einstein, lui, avait préféré la solution d'univers statique, mais il y a d'autres personnes, donc en particulier Friedman et puis Lemaître, qui avaient parlé d'univers en expansion. Et donc les découvertes de Hubble, c'était la première confirmation de l'expansion de l'univers. Alors maintenant, on va essayer de remonter un petit peu le film à l'envers. Si l'univers est en train de s'étendre et qu'on remonte un petit peu dans le passé, ça veut dire que dans le passé, il y a eu une période où l'univers a été de taille beaucoup plus réduite, beaucoup plus chaud, et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça a comme conséquence. Alors en fait, ça, on peut maintenant, on sort un petit peu du domaine des choses qui se passent à très grande distance, on va faire intervenir la physique nucléaire et la physique des particules, qui va nous dire qu'est-ce qui peut se passer dans ces toutes premières étapes. Alors, au tout début, quand on a vraiment un univers qui est extrêmement dense et extrêmement chaud, il y a énormément de choses qui se passent. Les particules se créent, se désintègrent en permanence, il y a des interactions tout le temps entre elles. Aucune structure stable ne se crée, puisqu'il y a tellement d'énergie aux particules que les forces de vivant aux particules sont insuffisantes pour les maintenir l'une à côté de l'autre. Donc dès, si par hasard il y a une structure stable qui se forme, elle est immédiatement détruite. Donc c'est un espèce de bouillonnement incessant, et donc il existe seulement les particules élémentaires. Donc celles qu'on connaît actuellement, donc c'est les quarks. Donc les quarks, c'est les particules élémentaires qui forment les protons et les neutrons, par exemple. Ce qu'on appelle les leptons, c'est toutes les particules de la famille de l'électron. Vous en avez tout un tas. Donc l'électron, vous avez un peu plus lourd que l'électron, mais de même charge. Vous avez l'ion, vous avez le taux qui a aussi les mêmes propriétés. Et puis donc les neutrinos. Les photons, donc ça c'est les particules de lumière, et les gluons c'est les particules qui sont responsables de l'interaction forte. Donc l'interaction forte, ça c'est ce qui est, parce qu'il fait en sorte que les noyaux d'atomes existent. Parce que si vous prenez par exemple un noyau d'hélium avec deux charges opposées et puis il y a aussi deux neutrons, s'il y avait que les interactions électrostatiques, vous savez tous que les charges opposées se repoussent. Donc avec simplement des forces électriques, le noyau d'hélium ne devrait pas exister. Donc s'il existe et qu'il y a d'autres forces, et ces autres forces, bah, c'est justement les interactions fortes qui sont transportées par les gluons et bon, tout un tas d'autres particules. Alors après, on laisse un petit peu le temps passer, donc là l'univers commence à s'étendre un petit peu, à se refroidir. Quand on arrive à 1/10 millionième de seconde, la température, donc là je l'ai mis en puissance de 10, sinon ça ferait trop de zéros, donc c'est 5 fois, après vous mettez 12 zéros, 5000 milliards de degrés. Là, on peut commencer à former les premières structures. Donc, on peut commencer à former des protons, donc qui sont des assemblages de trois quarks, ces choses-là. Par contre, on n'en est pas encore à former des atomes, des choses comme ça, parce que là encore, il y a beaucoup trop d'énergie. Donc, si un électron voulait se lier, par exemple, à un proton pour former un atome d'hydrogène, bah, aussitôt, il est éjecté par une autre particule. Et quand on en est à cette température-là, les protons et les neutrons sont en nombre égal. Alors, ça ne sera plus le cas après, puisque quand vous avez les protons et les neutrons ont des masses un tout petit peu différentes, avec le neutron qui a des masses un tout petit peu plus grandes que celles des protons. Donc, quand vous avez des énergies énormes qui sont en jeu, cette petite différence de masse, en fait, n'a pas tellement d'importance et vous avez conversion de l'un à l'autre sans problème. Après, si vous diminuez en énergie, là, la différence de masse devient sensible et vous n'avez plus conversion de l'un à l'autre. Et finalement, vous restez avec plus de protons que de neutrons. Alors, on continue un petit peu. Donc, on arrive à 1 seconde. La température arrive à 1 milliard de degrés. Là, on peut commencer à faire des noyaux un peu plus gros que simplement le noyau de l'atome d'hydrogène, donc un simple proton. Donc, on peut faire, par exemple, du deutérium. Donc, de le deutérium, c'est quoi ? Ben, on fait rencontrer un proton, un neutron. Ça forme du deutérium qui est dans un état excité et qui va émettre du rayonnement électromagnétique qui est symbolisé par le petit gamma qui est ici. On va former aussi un autre isotope de l'hydrogène, donc ce qu'on appelle le tritium. Vous avez un proton et deux neutrons. Donc deutérium et tritium, du point de vue chimique, ça a à peu près les mêmes propriétés. Parce que ce qui va déterminer les propriétés chimiques des éléments, c'est le nombre d'électrons. L'hydrogène standard, deutérium et tritium ont tous un électron. Par contre, ils sont différents par leur noyau qui est eux. Donc, pour l'hydrogène tout seul, pas de neutrons, deutérium, un neutron, et puis tritium, deux neutrons. On va former également de l'hélium 3 et 4. Et puis, en gros, on va s'arrêter là. Parce qu'on n'arrive pas, dans ces périodes-là, on n'a plus assez d'énergie pour former d'autres éléments. On va former un tout petit peu de lithium, un tout petit peu de beryllium, mais vraiment à l'état de trace. Et puis on s'arrête là, tout le reste on en forme quasiment, pour ainsi dire, pas. Alors là encore, on n'en est pas encore à former des atomes, hein. On en est simplement à former des noyaux. Donc pour l'instant il y a les électrons d'un côté, les noyaux de l'autre côté, mais ils ne sont pas encore rencontrés pour former des structures stables et neutres qu'on appelle les atomes. Et surtout, ce qui est le point important, donc c'est que les photons, donc ils vont à la lumière. Et en fait, plus l'interaction, donc la lumière fait à peine un tout petit trajet que paf, elle est absorbée, elle est réémise, etc. Donc la lumière n'est pas du tout libre de se propager là où elle veut. Ça va durer un petit moment. Alors oui, pour ce qui est de la nucléosynthèse, donc formation des premiers noyaux, en à peu près 15 minutes, tout est bouclé. Donc, et on se retrouve avec à peu près 75% d'hydrogène, 25% d'hélium. Et puis, je vous ai dit des traces d'un peu autre chose, mais quasiment pas. Alors si on fait des. On peut, donc tout ça, c'est proportions, 25%, etc. 75%, ça se calcule avec la chute nucléaire, c'est des particules. Et on peut faire des mesures de ça dans l'univers, hein, faire des mesures du pourcentage d'hydrogène, du pourcentage d'hélium, et ça marche très très bien avec les calculs. On est en très bon accord, sur l'hydrogène, sur l'hélium, le deutérium, etc. On est vraiment, théorie et calcul sont vraiment colle pile poil. Et on peut également donc déterminer la quantité de matière de l'univers qui est de 0,04. Alors évidemment, une grandeur comme ça sans unité, ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai mis dans les bonnes unités. Alors l'unité qu'on utilise dans ce cas-là, c'est la densité critique de l'univers. On va en reparler puisqu'il y a une densité particulière de matière de l'univers, d'énergie, qui va gouverner un petit peu l'évolution possible de l'univers. Donc ça, j'y reviendrai dans la suite. Et on a l'habitude de mesurer toutes les densités en fonction de cette densité critique. Donc là, le 0,04, ça veut dire qu'on est à 4% de la densité critique. Alors, ensuite, donc j'ai dit 15 minutes, tout est réglé pour les noyaux. Et puis, à 380 000 ans, il va se passer quelque chose d'assez spécial. À ce moment-là, la température diminue suffisamment pour que la température diminue et puis les distances aussi deviennent suffisamment grandes pour que la lumière commence à se propager toute seule en ligne droite, sans interaction, sans être modifiée dans sa trajectoire. Donc d'un espèce de brouillard qu'on avait avant où la lumière faisait des petits chemins et changeait perpétuellement de direction, tout d'un coup l'univers devient transparent. C'est ce qu'on appelle le découplage lumière-matière. Et conséquence de ce découplage, on doit maintenant observer ce rayonnement fossile qui date des premiers instants de l'univers, du moment où l'univers est devenu transparent. Et ça a été prévu il y a déjà très longtemps par Georges Gamow, dès 1948, qui avait prévu ce rayonnement fossile, un rayonnement cosmologique. Alors, sauf qu'il y a une toute petite chose qui diffère par rapport aux 3000 degrés ici, c'est que du fait de l'expansion de l'univers, ce rayonnement ne l'observe plus à 3000 degrés actuellement, mais plutôt vers les 3 degrés. Et ça a été effectivement observé en 1965, donc par Penzias et Wilson, qui ont eu le prix Nobel juste après, et c'est des gens qui sont toujours vivants, et ils posent ici devant l'antenne qui leur a permis de détecter ce rayonnement. Donc c'était une antenne en fait, qui n'était pas du tout faite pour ça au début. C'était une antenne qui servait pour les télécommunications au laboratoire Bell. Et donc Penzias et Wilson mettent en marche leur antenne et puis ils ont un problème parce qu'ils ont toujours un signal qui traîne dans l'antenne, alors qu'a priori il n'y a rien envoyé sur l'antenne, ils ne devraient pas avoir de signal. Alors ils cherchent bien un peu partout, alors en particulier ils trouvent des pigeons qui ont fait des crottes un peu partout sur l'antenne, alors ils disent ah tiens, ça doit être ça, on va les gratte, ils enlèvent tout, ils nettoient, ils vérifient tous les récepteurs, ils vérifient qu'il n'y a pas de source possible de rayonnement. Et malgré tous les soins qu'ils peuvent apporter au nettoyage de l'antenne et tout, il y a toujours ce rayonnement. Et la chose bizarre, c'est que quelle que soit la direction dans laquelle ils orientent leur antenne, ce rayonnement est toujours présent, et est toujours présent de la même façon, avec la même intensité. Et vérification après vérification, ils en sont venus à se dire que si le rayonnement est partout le même, c'est qu'il ne vient pas de la Terre, c'est qu'il vient en fait de tout le ciel, de tout l'univers. Et ils ont fait le rapprochement ensuite avec ce fond de rayonnement cosmologique qui avait été prévu par Gamow. Donc la découverte de cette première lumière émise dans l'univers, ça date d'il y a un peu plus de 40 ans. Alors maintenant, on en sait un peu plus sur ce rayonnement fossile. Donc je l'ai dit, Penzias et Wilson, eux, voyaient quelque chose d'absolument uniforme, quelle que soit la direction dans laquelle ils orientaient leur antenne. Alors maintenant, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des petites fluctuations. Donc je vous ai dit, ce rayonnement, on le voit à peu près 3 degrés. Alors, c'est 3 degrés absolus, c'est degrés Kelvin. Alors, si on veut être précis, ce n'est pas tout à fait 3, c'est 2,7. Donc, la correspondance degrés Celsius, degrés Kelvin, c'est vous enlevez 273 degrés au Kelvin pour obtenir les Celsius. Donc, ce 3 Kelvin, ça fait moins 270 degrés Celsius. Donc pour en revenir au rayonnement, il y a deux satellites qui ont apporté vraiment des données fondamentales pour l'observation de ce rayonnement cosmologique. Donc c'est pour commencer le satellite WMAP, Et il y a 2 ans, un des concepteurs du satellite WMAP a eu lui aussi le prix Nobel pour l'étude du rayonnement cosmologique. Et puis le satellite COB, qui a amélioré grandement la résolution angulaire des mesures de WMAP. Donc les deux images que vous avez ici, en fait, c'est des images des petites fluctuations du rayonnement cosmologique. Donc je vous ai dit qu'il n'était pas tout à fait uniforme. Donc là, ce que vous voyez, c'est les écarts à la moyenne dans tout le ciel. Et entre cette image-là et cette image-là, on voit nettement que la deuxième image est bien plus précise, bien plus résolue. Alors il y a un successeur de COB qui vient d'être lancé, c'est le satellite Planck, donc un satellite de l'Agence spatiale européenne, et dont on attend là aussi beaucoup. Alors cette fluctuation, là encore, c'est pas quelque chose qui est évident à montrer, hein. C'est pas on pointe le télescope, on montre la moyenne et puis hop, on a gagné. Ces fluctuations, c'est de l'ordre de 1/100 millième de la valeur moyenne. Donc ça veut dire que ça revient à mesurer 1 km à 1 cm près. Donc ça ne se fait pas tout seul. Hein. Vous avez tout un tas de bruits parasites qui viennent dessus, des sources qui peuvent être dans la Voie lactée, etc., d'autres galaxies. Donc il faut vraiment faire un comptage très très soigneux de toutes ces sources parasites pour avoir les deux images ici. Donc la chose importante, c'est que ce pont cosmologique n'est pas tout à fait uniforme, il y a des petites fluctuations, et ça c'était vraiment le point important qu'on voulait vérifier. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'amplitude de cette petite fluctuation, on peut montrer qu'elle est directement reliée à la quantité de matière de l'univers. Et on peut, comme ça, donc estimer de façon complètement indépendante de la physique nucléaire la densité de matière de l'univers, et ça tombe bien, si on fait le calcul, on retrouve exactement la valeur donnée par les calculs de physique nucléaire, donc le 4% de la densité critique. Donc c'est quand même une indication forte que les calculs qu'on peut mener sur l'histoire de l'univers, son évolution, sont cohérents, puisque avec deux méthodes complètement indépendantes, on trouve la même valeur pour la densité de matière. Alors on a quand même un problème, c'est que même si on trouve des petites fluctuations, elles sont quand même pas très importantes. Et ça pose un problème, parce que ça veut dire que, en gros, tout est très très homogène. Et si on veut que quelque chose soit très homogène, il faut qu'il puisse y avoir de la communication entre les différents points d'un lieu où vous voulez qu'une grandeur soit homogène. Il faut que, par exemple, que vous avez de l'énergie qui puisse passer d'un point à un autre pour égaliser les températures, des choses comme ça. Et si vous avez un univers qui est suffisamment grand, en 380 000 ans, vous n'avez pas le temps d'aller d'un bout à l'autre de l'univers, et donc vous n'avez pas le temps d'égaler les températures. Et ça a posé un problème pendant très longtemps. On ne savait pas comment en fait expliquer qu'on avait si peu de fluctuations. Et la solution pour l'instant qu'on a trouvée, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc c'est une période très très brève pendant laquelle l'univers a énormément augmenté de volume. Et donc c'est grâce à cette augmentation énorme de volume qu'on peut justifier le fait qu'on ait une si grande homogénéité, pardon, parce que les régions qui étaient très très proches au début, donc qui pouvaient être homogènes, du fait de l'inflation, se sont trouvées extrêmement éloignées. Et donc on peut, malgré un univers de grande taille, avoir des régions corrélées à très grande distance grâce à l'inflation. Alors, il y a quand même, je vous ai dit, quand on regarde la densité de matière déduite par les fluctuations et puis déduite par la physique nucléaire, ça marche bien. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. Premier problème, c'est pourquoi est-ce qu'il reste de la matière? Parce que si on regarde les lois de la physique nucléaire, matière et antimatière sont absolument équivalentes, hein, quasiment équivalentes. Et donc, s'il y a autant de matière que d'antimatière au début, les deux doivent s'aligner, il ne devrait rester rien du tout. Et il ne reste pas rien du tout puisqu'on est là. Donc il y a eu plusieurs idées qui ont été proposées pour ça. Une première idée, c'était de dire qu'il y a peut-être des endroits dans l'univers où il y a essentiellement de la matière, d'autres endroits où il y a essentiellement de l'antimatière, et puis globalement, il y en a autant d'une catégorie que d'autres. Alors ça pourrait être une idée, mais sauf qu'il doit y avoir quand même des endroits où les deux se joignent. Et quand, comme je viens de dire, quand il y a de la matière et de l'antimatière qui se rejoignent, ça s'aligne, donc ça émet l'énergie du rayonnement à très caractéristique, et ça, on l'a regardé, on l'a jamais trouvé. Donc, pour l'instant, c'est encore un problème de savoir pourquoi est-ce qu'on a un univers qui fait de matière et pourquoi est-ce qu'on n'observe pas d'antimatière. Dis-nous de toute façon pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Alors, autre problème aussi, donc c'est 4% de matière ordinaire. Donc, je vous l'ai dit, les lois de la physique nucléaire, ça nous dit à partir des abondances relatives d'hélium, d'hydrogène, d'hydrogène, des choses comme ça. Après, il faut quand même essayer de savoir si effectivement on voit ces 4%. Et c'est là que les choses commencent à se gâter parce que, au mieux, ce qu'on voit, que ce soit sous forme d'étoiles ou bien de nuages de gaz et des choses comme ça, on va dire en étant optimiste, c'est 1%. Donc, il manque quand même un facteur 4 par rapport à ce à quoi on s'attend. Alors, deuxième problème, donc je vous ai dit l'homogénéité du fond cosmologique, c'était un premier problème. De savoir pourquoi ça a été. Comment expliquer cette si grande homogénéité. Donc, on a résolu ça en partie avec l'inflation, même si ce n'est pas forcément très satisfaisant. Mais le deuxième problème de cette homogénéité, c'est qu'à partir de ça, on n'arrive pas à expliquer comment se forment les galaxies. Parce que, je vous l'ai dit, des galaxies, donc dans le sondage Hubble très profond, on en voit quasiment depuis le début de l'univers. Donc, c'est des choses qui ont dû se former très très rapidement après le Big Bang. Et le problème, c'est qu'avec des fluctuations de l'ordre de 1 pour 100 000, actuellement, on ne sait pas comment expliquer une formation aussi rapide des galaxies. L'idée, c'est qu'autour de ces fluctuations, il y a des endroits un peu plus denses, un peu moins denses. Donc les endroits un peu plus denses vont avoir tendance à se contracter plus facilement, et c'est ça qui va donner les premières étoiles, les premières galaxies, etc. Mais dans le temps moins de 1 milliard d'années après le Big Bang, on voit déjà des galaxies formées. Et avec ces fluctuations de 100 millième, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire quelque chose des formations de galaxies aussi rapides. Donc, on est obligé de rajouter un ingrédient, c'est la matière sombre, matière noire. On en a déjà parlé le cours précédent pour expliquer les courbes de rotation de galaxies, et on en a besoin là encore, en particulier pour expliquer ces vitesses de. Que les galaxies soient formées aussi rapidement. Alors le problème, on l'a vu dans le cours d'avant, c'est que pour l'instant, cette matière noire, on ne l'a pas observée. On a beau faire des expériences dans les tunnels pour se préserver de tous les parasites, on n'observe rien. Auprès des accélérateurs, on n'observe rien, donc c'est un vrai problème. Et la matière sombre, donc elle est nécessaire pour expliquer la formation des galaxies, mais pour aussi également expliquer les structures d'amas et superamas. Parce qu'on a le même problème que dans les galaxies. Souvenez-vous, dans les galaxies, on n'arrive pas à expliquer la vitesse de rotation des étoiles qui sont loin du centre de la galaxie. Et on peut faire le même type d'exercice dans les amas. On mesure les vitesses des galaxies par rapport au centre de l'amas. Et là encore, si on compare la masse qu'il faudrait pour donner la vitesse à ces galaxies et puis la masse observée en comptant les galaxies, on a un problème et il nous manque de la matière. Et ce qui nous manque, c'est au moins autant que dans les galaxies, donc ça veut dire qu'il faut quasiment. Souvenez-vous les chiffres de la fois dernière, c'est 10 fois plus de matière noire que de matière visible. Alors, en particulier, on en a besoin aussi de cette matière noire pour expliquer certains phénomènes qu'on appelle donc, les mirages gravitationnels. Donc, ces mirages, c'est en fait un effet de relativité générale. De la même façon, quand vous avez une route en été avec de l'air chaud, vous avez l'impression de voir des flaques, des choses comme ça. C'est les mirages. De la même façon, quand vous avez des concentrations importantes de matière, vous déviez les rayons lumineux qui ne se propagent plus en ligne droite, et vous pouvez comme ça déformer les images, c'est ce qu'on appelle les mirages gravitationnels. Donc sur l'image, il y en a tout un tas. En particulier, vous avez ces espèces de structures en forme d'arc qu'on voit ici ou là, donc qui sont en fait des images de galaxies, mais complètement déformées, qui n'apparaissent du tout spirales ou rondes. En forme seulement de petites lignes. Et ces déformations, on peut faire le calcul et puis faire le calcul à l'envers et remonter à la quantité de matière qu'il faudrait pour expliquer ces déformations. Et puis on fait toujours le même exercice, on compte le nombre de galaxies, etc. Et puis on déduit la masse et on compare la masse qu'on obtient en comptant les galaxies et la masse qu'on obtient en faisant le calcul des mirages gravitationnels. Et là encore, il y a un problème, les deux ne collent pas du tout. Il faut beaucoup plus de masse que ce qu'on observe, de la même façon qu'il faut beaucoup plus de masse pour maintenir ensemble les structures d'amas et superamas. Donc il y a vraiment un réel problème ici, et pour l'instant, donc, On s'en sort avec la matière noire, mais bon, je vous dis, c'est pas très satisfaisant, on l'a pas encore détecté. Il y a d'autres théories alternatives. Donc on a parlé la fois dernière de certaines modifications des lois de la gravité comme les théories d'onde. Donc ça c'est peut-être une piste un peu plus prometteuse. Alors pour rester dans le noir, on n'en a pas fini avec la matière noire et tous les côtés obscurs de la force. Quand on a étudié l'étude des supernovas, les supernovas type A, donc les supernovas Fraenkel, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'univers était en expansion, ça on savait depuis Hubble, mais en fait il était en expansion de plus en plus rapide. Alors comment on s'en est rendu compte? Parce que les supernovas type A, là encore, on peut déterminer leur distance. Et puis, apparemment, on peut par exemple appliquer la loi de Hubble, dire voilà, j'ai quelle distance. La loi de Hubble me dit que je dois avoir cette vitesse de fuite, et puis ça ne correspond pas. Les vitesses de fuite qu'on mesure sont plus grandes que ce qu'on prévu, donc que ce qu'on prévoit avec la loi de Hubble, donc ça veut dire que l'expansion de l'univers s'accélère. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Alors, il y a encore des discussions là-dessus, c'est ce que je mets ici. Pour savoir si vraiment ces supernovas type A sont aussi fiables que ça. En particulier, on ne sait pas forcément déterminer avec vraiment de précision tous les effets qu'il peut y avoir dû à au changement de composition chimique de l'univers au cours du temps, puisque avec les générations successives d'étoiles, on va enrichir l'univers de plus en plus en métaux lourds. Donc au tout début de l'univers, il n'y avait pas du tout ces éléments lourds, et on ne sait pas vraiment si les toutes premières supernovas type A ressemblent vraiment à celles qu'on a. Qu'on peut observer là maintenant. Donc ça, c'est encore en débat. Donc, il semble quand même que l'univers soit en train de s'étendre de plus en plus rapidement. Et le problème, c'est que on vient de dire qu'on avait besoin de la matière noire pour expliquer les grandes structures dans les galaxies, les courbes de rotation des galaxies. Et ça va complètement au contraire de l'idée d'un univers qui va en expansion accélérée, parce que plus vous allez avoir de matière dans l'univers, et plus il va avoir tendance à se contracter au contraire. Donc il faut rajouter quelque chose pour expliquer pourquoi on observe une expansion qui se fait de plus en plus rapidement. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie noire, quelque chose qui agit un petit peu comme une pression négative, ou qui a des effets contraires à la gravité. Alors cette énergie noire, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Si on revient donc un petit peu à Einstein, on peut l'identifier à la fameuse constante cosmologique qu'Einstein avait introduite dans ses équations. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quel statut donner à cette constante cosmologique. On ne sait pas vraiment à quoi la rattacher de plus fondamental. C'est quelque chose qui n'est pas interdit dans les équations, mais il n'y a pas... Le problème, c'est que il n'y a pas d'assise vraiment très profonde à ça. On ne sait pas, on ne sait pas trop quel statut, à quoi le rapprocher de plus fondamental. Alors, si on essaye de faire l'exercice de savoir quelle quantité d'énergie sombre, d'énergie noire, est-ce qu'il y a, là encore, avec les équations de la relativité générale, c'est des choses qui peuvent se faire. On arrive à une valeur qui est à peu près de 0,7. Alors si vous faites le compte, 0,25 de matière noire, 0,04 de matière ordinaire, à peu près 0,7 de matière d'énergie noire, vous arrivez quasiment à la valeur critique. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas expliquer, parce qu'il n'y a a priori aucune raison pour que le contenu énergétique de l'univers soit plus de cette valeur. Et il semble que ce soit le cas, si ce n'est pas pile 1, on en est très très proche. Et on n'a pour l'instant aucune explication à donner à ça. Alors il y a de temps en temps, on trouve des explications sous forme de principes anthropiques, donc ils disent que si l'univers est fait comme ça, c'est pour qu'on puisse exister, qu'en gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un créateur qui a fait les choses, etc. À mon avis, ce que ça montre surtout, toutes ces choses-là, c'est qu'il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas comprises. La science, c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire. Et là, clairement, il y a des choses qui manquent. En particulier, il y a tout ce qui est théorie de la gravitation reliée à la mécanique quantique, on ne sait pas faire, et on sait qu'on en a besoin. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans l'univers, par exemple, l'évolution d'une étoile, ça relève de la physique microscopique, donc c'est le lois de la mécanique quantique. Et quand on relie ça à la cosmologie, c'est les lois de la relativité générale, et pour l'instant, les deux ne sont pas compatibles, mais on essaie quand même de les marier ensemble. Donc c'est pas évident que de temps à autre, on puisse arriver sur des choses qui ne sont pas, enfin, pas très cohérentes. Donc, bon, ça c'est un avis personnel, mais je pense que enfin, tous ces problèmes d'énergie noire, matière noire, etc., c'est le signe qu'il nous manque des choses dans la physique. Donc en particulier, comme je viens de dire, hein, ces théories de la gravitation quantique, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais c'est pas encore abouti, c'est vraiment des calculs très durs. Et il faut, enfin, on sait qu'il nous faut cet outil-là pour vraiment étudier de façon cohérente l'univers. Alors si on fait là encore un petit peu la synthèse de ce qu'on vient de voir, dans cet univers de densité 1, on a 70% d'énergie noire qui est à peu près, ben, on ne sait pas ce que c'est, 25% de matière noire inconnue qu'on ne connaît pas, 4% de matière noire ordinaire mais dont on connaît seulement 1%. Donc il y a à peu près 99% de l'univers dont on n'a à peu près aucune idée. Donc voilà où en est la cosmologie, mais bon, ça, on avance quand même. Alors les alternatives, donc je vous dis, hein, il y a toutes les théories type monde. Donc pour l'instant, monde commence seulement à être adapté au cas de la relativité générale. Au début, les premières échos des théories moyennes monde ont été faites. Donc c'est des théories qui étaient dans le cadre de la dynamique de Newton, donc qui ne prenaient pas en compte les effets relativistes. On commence maintenant à savoir faire ces théories de dynamique modifiée avec des effets relativistes, mais c'est vraiment le tout début. Donc, bah, enfin, y a des travaux qui se font, qui donnent des résultats intéressants, qui permettent par exemple de se passer de matière noire ou des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire si c'est vraiment la bonne voie. Il y a aussi une chose importante, c'est tenir compte des inhomogénéités de l'univers. Souvenez-vous des premières images là où on montrait la répartition des galaxies sous forme un peu de bulles. Et pour l'instant, on n'en tient pas compte. Dans tous les modèles d'univers qu'on fait, on suppose que l'univers est globalement homogène, donc il y a les mêmes propriétés partout. Et alors peut-être qu'à très très grande échelle, c'est vrai, mais quand on commence à voir des formes de bulles et des choses comme ça, visiblement, c'est pas vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on s'était placé dans l'hypothèse d'un univers homogène? Bah c'était tout bêtement pour simplifier les calculs, parce que la relativité générale, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, donc on est allé plus simple. Maintenant, là encore, on commence à faire des choses avec des univers inhomogènes. En particulier, un professeur à l'université de Lyon 1, Thomas Bouchert, qui est un des pionniers là-dedans, et là aussi, il commence à avoir des résultats intéressants, où on peut à la fois, avec ces inhomogénéités, et donc sans sortir du cadre de la relativité générale, expliquer les problèmes, enfin expliquer les phénomènes en se passant à la fois de matière noire et d'énergie noire. Donc c'est bon, là encore, c'est préliminaire, mais il y a vraiment des choses intéressantes qui sont faites. Alors maintenant, on en vient à la forme de l'univers. On a parlé un petit peu de son évolution, de son contenu, etc., mais on n'a pas parlé de la forme. Alors, si on regarde les équations de la relativité générale, la courbure de l'univers, c'est déterminé uniquement par le contenu en matière. Donc, si vous avez une densité qui est plus grande que 1, vous avez une courbure positive. Donc, c'est un univers qui ressemble un petit peu à une sphère. Si vous avez une densité qui est inférieure à 1, c'est quelque chose qui a cette forme-là, un peu en selle de cheval. Et vous avez, dans les modèles les plus simples de l'univers, donc à ce moment-là, l'expansion est indéfinie. Et si vous avez une densité qui vaut 1, pi égale à 1, vous avez une courbure nulle à ce moment-là, et donc on a un univers qui va être toujours en expansion, mais en expansion de plus en plus ralentie, et nulle à la limite. Alors le problème, c'est que ces modèles simples de l'univers nous disent que à la fois l'extension dans l'espace et l'extension dans le temps sont reliés. Donc, courbure positive, on a un univers qui serait, donc, pour revenir à. Pardon. Donc, univers qui ressemblerait un petit peu à une sphère. Alors, il faut faire attention parce que l'image de la sphère est un peu trompeuse. Parce que quand regarde une sphère, en fait, on voit un objet dans un espace à trois dimensions. Alors qu'il faut s'imaginer, en fait, il ne faut pas s'imaginer comme l'univers comme étant contenu dans une boîte plus grande. On peut définir de façon propre en géométrie des univers, enfin des espaces avec des courbures positives, enfin des courbures qui soient pas nulles, sans pour autant enfermer ces espaces dans des boîtes plus grandes. Donc densité positive, donc je disais espace fini dans donc deux dimensions finies, et puis donc l'expansion finit par s'arrêter au bout d'un moment, et puis le mouvement s'inverse, et on termine par on revient un peu à l'état initial du Big Bang, mais là on a inversé ce qu'on appelle le Big Crunch. Donc si on a une courbure négative ou nulle, on a donc, dans ces modèles les plus simplifiés, on a un univers infini à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors le premier problème, c'est que, donc, comme je l'ai dit, on ne sait pas exactement quelle est la densité de l'univers, donc même si elle est proche de 1 et encore là, c'est à prendre avec des pincettes, on ne sait pas si on est pile exact, pile à 1, un peu au-dessus, un peu en dessous. Et puis surtout le problème, c'est que ces modèles simplifiés, ils sont justement un peu trop simplifiés. Pour des questions de facilité, pour commencer à voir un petit peu les choses, on s'est limité à quelques études, mais on n'avait pas regardé les différentes topologies de l'univers dans le cadre général. Et on peut avoir par exemple des courbures négatives et puis nulles et un espace de taille finie, alors ce que ne prévoient pas les premiers univers. Alors ça, c'est par exemple à trois dimensions, on peut montrer qu'il y a 10 possibilités d'espace. Alors ce qu'on appelle espace euclidien, c'est-à-dire espace dans lequel la géométrie est exactement celle qu'on a appris à l'école, donc les trois angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, etc. Donc ça, vous l'avez par exemple dans le plan ou dans l'espace actuel, mais vous avez aussi d'autres espaces dans lesquels c'est vrai, dans lesquels la somme des angles d'un triangle est 180 degrés, mais qui ne ressemble pas forcément à un plan. Cet objet-là, par exemple, un torse, un espèce de boudin comme ça, c'est un objet dans lequel on a la géométrie quotidienne habituelle, donc la somme des angles d'un triangle qui vaut 180 degrés, qui est de dimension finie. Et donc tous ces types d'espaces, au début, en cosmologie, on ne les a pas considérés. Donc dans ce cas-là, on a beau avoir une courbure qui est nulle, donc courbure nulle, ça veut dire espace quotidien, et pour autant, on n'a pas un espace qui est fini. On n'a pas un espace infini, pardon. Donc rien que dans le cas 3D, on a en tout 18 possibilités d'espace euclidien ici. Et donc maintenant, il y a beaucoup de travaux qui se font pour justement essayer d'évaluer un peu toutes les possibilités d'espace en considérant tous ces types de géométrie. Alors justement, ça c'est ce qu'on appelle la topologie de l'univers, essayer de savoir un petit peu plus finement comment est-ce qu'il est fait géométriquement. Alors les premiers modèles de cosmologie, donc les plus simples dont je parlais au début, c'est ce qu'on appelle des espaces simplement connexes, donc c'est en fait des espaces comme le plan habituel, mais on peut avoir des espaces un petit peu plus bizarres qu'on appelle multiplement connexes, où en gros on a des effets de réflexion de lumière. Donc ces espaces, pour les imaginer, donc vous prenez un cube comme ça, et vous imaginez que vous racolez comme ça les bouts d'un côté à l'autre, ce qui veut dire que cette face-là et puis cette face-là sont équivalentes. Et du coup, vous dites d'une autre façon, si vous sortez par cette face-là, vous rentrez par l'autre face. De la même façon que si vous êtes sur un cylindre, par exemple, un cylindre, vous pouvez l'obtenir en prenant une feuille de papier et en collant les bouts de la feuille. Là, c'est la même idée, mais généralisée à un peu plus de dimensions. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, avec tous ces jeux de lumière, donc, on peut faire les calculs de savoir qu'est-ce qu'on observe réellement quand on met tant de galaxies dans ce type de lumière. Donc là, vous avez ce qui a été fait. Donc ça, c'est la répartition des galaxies qui existent réellement dans l'univers, et avec tous ces jeux de miroirs, en fait, on en observe énormément plus. Donc ça peut être... et alors elles sont réparties, elles ne sont pas réparties non plus n'importe comment. Puisque suivant la figure de laquelle vous allez partir du début, donc si vous avez un cube, un objet différent, vous n'allez pas avoir le type de réflexion, pas avoir le type de répartition. Donc des études qui se font actuellement, c'est d'essayer de repérer justement dans les galaxies, est-ce qu'on n'aurait pas des images miroirs d'une même galaxie. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment pas beaucoup de résultats qui ont été obtenus. Il y a des choses un peu plus intéressantes qui ont été obtenues sur le rayonnement du fond cosmologique. Parce que là aussi, si on a un univers comme ça en palais des glaces, on doit en voir la trace dans le rayonnement du fond cosmologique. En particulier, on doit avoir des cercles qui se ressemblent à des angles bien particuliers. Et alors, tout le problème, ça vient les fluctuations sont plus petites, donc essayer de trouver des ressemblances dans des fluctuations plus petites, c'est pas facile. Mais il y a des premiers résultats qui ont été obtenus et qui sembleraient dire qu'on est effectivement dans ces univers multiples. Donc, je vais juste revenir un petit peu. Vous avez le nom qui est indiqué ici, donc la personne qui fait ça, c'est Jean-Pierre Luminel, c'est un chercheur français qui est un de ceux qui a fait pas mal de recherches sur ces univers en palais des glaces, comme ça. Et donc, lui, l'hypothèse qu'il a trouvée la plus ressemblante par rapport au fond cosmologique, alors c'est pas quelque chose qui ressemble à un cube au début, mais c'est quelque chose qui ressemble à un dodécaèdre. Donc quelque chose à deux faces, un peu compliqué, là encore avec des rappellements un peu spéciaux de faces. Et il semblerait y avoir effectivement dans le fond cosmologique des indices en faveur de Alors là encore, c'est des choses qui sont préliminaires, en cours. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer. En particulier, ce qui va faire beaucoup la différence, c'est de savoir la densité exacte de l'univers. Parce que pour ces modèles d'univers un petit peu... qui sortent des modèles traditionnels simplistes, on peut prévoir de manière très, très précise la densité, et eux, ils en sont à des valeurs de 1,01 quelque chose, donc si on est un tout petit peu, si on est par exemple pile à 1 ou un petit peu en dessous, il va falloir rejeter tous ces modèles. Donc, cette question de la forme de l'univers, c'est quelque chose qui est... c'est vraiment une question ouverte. Pour l'instant, on ne sait pas si l'univers est fini, infini, est-ce qu'il est de courbure positive, négative ou nulle, puisque apparemment on serait juste à la limite. Ce dont on a besoin pour trancher, c'est pas, bon, en particulier des théories physiques un peu plus puissantes, mais aussi des observations, puisque les deux observations là, de WMAP et de COB ne sont pas suffisantes. Donc il y a un nouveau satellite qui va prendre le relais. Donc c'est le satellite Planck qui vient d'être lancé il n'y a pas très longtemps, donc qui n'a pas encore fourni les premières données n'ont pas encore été rendues publiques, mais on en entend beaucoup. Et donc autre ingrédient, oui, je disais, donc on sait qu'il nous faut des nouvelles théories physiques, donc toutes les théories physiques qui relient la mécanique quantique et la gravité. Il y a des premières ébauches qui ont été faites, les théories des cordes, etc. Il y a encore des problèmes avec ces théories des cordes, mais on sait que c'est seulement en passant par l'unification de la gravité et de la mécanique quantique qu'on pourra supporter. Donc le chantier est encore immense et il y a encore plein de choses intéressantes qui nous attendent. Voilà. Merci pour votre attention.